États, les États de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédonces petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, fais-tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable est il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des poils autres promenades.
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Scène de vie, vie de scène du mois de décembre. Bonjour Nathalie.
Bonjour JC, bonjour à tous et à toutes. Oui, émission de décembre, juste avant Noël, des réjouissances encore avant les fêtes.
Une fois de plus, nous prendrons le temps de vous parler de la vie de scène que nous avons repérée ce mois-ci. Aujourd'hui, nous prendrons le temps de vous parler de soupe.
Une soupe partie mi-décembre, oui, à l'abordage avec la Caravane Pass. Là, c'est une démarche assez, on va dire, particulière, mais très conviviale qu'on vous présentera.
Nous continuerons avec des démarches particulières en parlant de concerts en appartement.
Et oui, et pourquoi pas avoir une autre expérience d'auditeur et de recevoir un concert chez soi, dans son salon ou son appartement.
Les concerts de fin d'année à but caritatif, nous ferons le tour de ce qui est proposé.
Et puis aussi, on vous parlera d'un appel à figuration pour un spectacle.
Nous continuerons notre tour du monde des musiques, en s'arrêtant cette fois-ci au Chili.
La musique andine à découvrir.
L'agenda, bien entendu, en fin d'émission.
Qui vous rappelleront les dates qui seront les plus significatives dans le mois de décembre.
Et pour commencer, sans plus attendre, notre traditionnelle prise de son.
Vous allez bien loin.
Oui, alors un touchant, c'est...
Ouais. Je vais mettre plus au milieu.
Oui, toi, tu es peut-être plus en centré. Ouais.
Bien,
centré.
Côté.
Vous avez vos amis.
Oui, eh oui, nous avons... C'est l'âge, ça, tu vois.
Alors voilà, c'était une captation. Nathalie, quelle était cette captation?
Alors, vous l'avez bien entendu et compris, nous étions dans une entrée de salle, mais là, de salle de cinéma. J'ai laissé traîner mon micro pendant le festival du film de l'éducation, qui s'est déroulé du 19 au 23, au 24 novembre dernier, au ciné Pathé d'Évreux, mais dans le cadre vraiment de l'organisation nationale du film d'éducation, qui a lieu donc une fois par an à Évreux.
Alors on entendait dans cette captation qu'il y avait une stratégie pour se placer dans la salle de cinéma carrément là.
Et oui, et j'ai su après pourquoi finalement. Donc là on était dans l'entrée de salle de Colorful en soirée. Et c'était des dames qui s'installaient vraiment au public lambda, mais qui me faisaient part après que pendant ce festival, il y avait énormément de groupes d'étudiants qui viennent de partout en France, puisque ce festival a un rayonnement national avec une thématique forte d'éducation. Donc beaucoup d'éducateurs, d'animateurs en formation viennent assister à ce festival. Et donc ça crée des groupes. Et là, les personnes individuelles avaient une stratégie pour se placer, pour éviter un peu les groupes qui pouvaient s'exprimer différemment pendant la représentation, on va dire.
Alors durant ce festival, nous avons eu deux coups de cœur plus particuliers, des films On espère vous aurez la chance de revoir en salle ou dans des, j'allais dire, dans des chaînes spécialisées ou à des horaires spécialisés.
Oui, c'est rare, parce que c'est vrai que le principe d'un festival, bah, c'est justement de voir des films ou des documentaires qu'on ne peut pas voir, malheureusement, enfin c'est comme ça, dans les réseaux, on va dire, plus généraux de diffusion de cinéma. Et oui, deux coups de cœur. Alors, pour ma part, ce fut Le Fils du Marchand d'Olives, qui était un documentaire, un parcours initiatique d'un couple de jeunes mariés, un voyage de noces en Turquie, où le jeune marié, en fin de compte, est d'origine turque mais arménienne. Et ce film documentaire nous retraçait vraiment la perception du génocide arménien en Turquie à l'heure actuelle, mais à travers la rencontre directe de ce voyage et la rencontre avec la population et les jeunes turcs d'aujourd'hui. C'était assez intéressant et la forme cinématographique était extrêmement variée puisqu'elle elle associait vraiment le cinéma d'animation avec la caméra DV spontanée et donc l'image vraiment non pellicule mais DV d'un reportage comme ça en direct, nous allons dire. Un très beau travail de montage également sur ce film. Voilà, moi c'est un film qui m'a touchée parce que c'était très intéressant d'entendre la parole des jeunes et des jeunes turcs d'aujourd'hui sur justement comment ils ont été finalement éduqués à cette histoire qui est niée totalement par le gouvernement turc. Voilà.
Alors moi, mon coup de cœur, c'était la Machina, qui a d'ailleurs eu la palme du grand jury. L'histoire, c'est un marionnettiste, Sergio, qui emmène un enfant de 9 ans, Adrien, dans sa tournée estivale. Il va passer, pour reprendre ses mots, il va le passer à la Moulinetta. À la Moulinetta, comme il dit, alors pas pour l'écraser, mais pour en obtenir le meilleur de lui-même, comme il dit, l'essence de cet enfant. Durant la tournée, Sergio va lui transmettre des valeurs, en plus de son métier de marionnettiste. Il va, comme il dit, libérer son imaginaire. Alors c'est un film qui est entre reportage et enfin, il y a une petite partie scénarisée quand même, où le réalisateur l'a expliqué à la fin de la projection. Il y a une partie travaillée avec le marionnettiste pour savoir dans quelle direction ils vont aller. Et puis ensuite, bah, c'est libre cours à l'improvisation de la vie. Donc La Machina, un film, moi, qui m'a touché. Et pour une fois, nous n'avons pas pris le temps dans cette émission Scène de vie, vie de scène. Là, nous avions des échanges
nous,
de...
Erreur à nous, et vraiment une impolitesse qu'on ne se pardonne pas. Nous n'avons pas présenté notre invité.
Exactement.
Quand même, comme chaque émission, nous avons un invité. Et là, qui est en lien avec le concert, le principe de concert en appartement. Donc, nous accueillons Bruno Botterf. Bonjour Bruno.
Bonjour à vous.
Voilà, directeur qui dirige l'ensemble Ludus Modalis, ensemble de musique vocale, oui. Essentiellement.
Essentiellement vocale, essentiellement... exceptionnellement instrumentale.
Exceptionnellement instrumentale pour ce programme. Donc on en discutera lors de notre deuxième sujet. Merci Bruno. Bien sûr Bruno, vous pouvez intervenir à tout moment de l'émission si vous le souhaitez.
Merci.
Je vous propose tout de suite une première pause musicale avec la Caravan Pass Like a Sex Toy. She needs to reach new height, but in a lovely style. She prefers being light, wanna be a burden. She says she's a woman crossing the end of century, spending her time singing Madonna song like a virgin. She wanna jive her, leading the flower to the Eiffel Tower, to the Sonia Riquel corner. Face it with these wishes, I'm looking for changes. I try to be the boy modern love is like. Like a sex toy. Like a sex toy. She says, yesterday romantic, tomorrow fantastic. She's like a love addict,
Now what does materialistic? She needs some clean music, vibrating the plastic, precise electronic, made in jelly realistic. End of the taboo, breaking the igloo. I wanna please you, you make my heart vibrating mood. Confidentiality, discreet delivery. Hello plastic woman, you can call me high tech man.
Ich bin ein Object man.
Fly smiling to the flower power shining. A waterproof dolphin in the bath is flirting with ducky, my darling. Come on baby, be my Barbie. Can be a rabbit like Roger Rabbit. Buzz Bunny got it, dancing like a magic rabbit. I kept my childish soul for you, my plastic doll. The Toy Story involved modern novice like a sex toy.
La caravane passe, like a sex toy, extrait d'un album de 2010 dont le nom va pas me revenir tout de suite. In da Future. Voilà, c'est ça. Il nous est revenu. Nous parlions de la caravane passe, groupe particulier, énergique, venant d'un pays particulier aussi.
Bah, ils se disent venir de Plechti, une ville très emblématique, un pays inconnu, leur pays. En tout cas, ils se sont construits leur univers et leur personnage. Alors, dans l'équipe, dans l'équipage, hein, parce qu'ils sont plusieurs.
Et c'est un équipage, effectivement, c'est appelé comme ça.
C'est vraiment appelé l'équipage et non pas le groupe. C'est vraiment, on est dans un univers, voilà, donc qui est composé de Dr. Pat, de Maestro Moretto, de Captain Fetterman, de Senior Lugani et de Colonel Body. Voilà. Alors là,
le décor est planté.
Le décor est planté. Alors, à la radio, on n'a pas l'image, mais si vous allez sur le site de la Caravane Passe, vous voyez aussi les figures et les personnages que chaque musicien se sont créés pour ce navire, je dirais. Parce que là, on est vraiment dans un équipage qui nous emmène partout et qui voyage partout.
Alors, ce concept particulier colle très bien à un autre concept particulier qui est la fête de la soupe qui se déroulera le 15 décembre à l'abordage à Évreux.
Oui, alors là, collaboration scène nationale Évreux-Louviers et abordage salle de musique actuelle à Évreux. La scène nationale propose depuis l'année dernière cette idée d'instaurer une fête de la soupe. Alors, la fête de la soupe, à l'origine, ça vient du Nord. Et les Lillois, les gens du Nord, qui, à un moment donné de l'année, se retrouvent tous ensemble dans les quartiers. C'est vraiment, je crois que ça vient vraiment des quartiers de Lille, autour de Lille. Et on se retrouve habitants, associations, enfin tout à chacun constitue en groupe, fabrique une soupe, réalise une soupe, cuisine une soupe quand il a envie, quand il a la recette. On se retrouve dans une salle où après avoir dégusté la soupe, on fait la fête. Voilà, c'est vraiment se rencontrer, mais se rencontrer avec, aussi avec la culture, hein, enfin, un concert. C'est toujours accompagné d'une rencontre avec un artiste, hein, cette fête de la soupe. Et c'est l'occasion pour, évidemment, les gens de se rencontrer entre eux, ceux qui fabriquent, cuisinent la soupe, mais également pour le spectateur lambda qui, d'habitude, va dans les salles, je pense, n'a pas l'habitude de parler facilement à son voisin, ne le connaît pas forcément non plus, ou alors en petit comité. Et bien là, on va dire que la barrière de la salle est totalement cassée, puisque le hall est aménagé avec des tables, des soupières chauffantes. Les gens arrivent, prennent leur billet, mais ont leur petit kit de soupe. C'est-à-dire que chaque entrée, on a son billet, mais on a son petit kit de soupe avec son bol.
Et sa cuillère, je suppose.
Sa cuillère, sa petite serviette, son petit gobelet si on a envie de boire un petit verre d'eau quand même. Parce que soupe chaude à force, on a envie de frais à un moment. Et voilà, et on fait. Donc, c'est une situation un peu cocasse, un peu drôle, qui forcément rallie, fait échanger les gens entre eux. Et après, circule évidemment, déguste les soupes concoctées.
Et puis, le fait d'avoir une situation quasi improbable favorise les échanges, bien entendu.
Exactement.
Principe Actif proposera d'ailleurs une soupe le 15 décembre. Voilà, on va vous inviter à faire goûter. À goûter nos soupes.
Voilà, donc on...
C'est pas moi qui l'a fait.
Bon, voilà, nous... on en parlera à la prochaine émission, émission de janvier. Mais ce qui est drôle aussi, donc pour après les associations, les groupes, ça se rencontre aussi entre eux. On échange aussi les recettes. C'est le moyen, c'est là où on voit que le contact et le lien se fait aussi par l'échange des recettes. Chaque groupe a édité sa recette avec ses ingrédients, le partage, ça je connais pas. Donc on est vraiment dans du lien et de la grande convivialité, vraiment très simple, mais voilà, humaine.
Eh bien on invite tout le monde à venir participer à cette fête de la soupe.
Alors oui, en sachant que... Attention, ça commence à se bousculer au portillon. Hein.
Et ça risque d'être complet.
C'est une opération qui a vraiment un grand succès. On l'a noté, parce que c'était la première fois qu'on le faisait aussi en Normandie, Évreux. Donc, comment cette idée du Nord pouvait aussi s'ancrer ici, dans le territoire.
Les origines du directeur de la scène nationale ne sont peut-être pas étrangères à ce fait.
Elles sont même tout à fait en lien direct. Puisque le directeur de la scène nationale est un homme du Nord, donc oui, il a grandi avec ça, donc il voulait aussi lui faire partager cette convivialité à l'endroit où il est maintenant. Et ça prend. On voit qu'en proposant, en offrant, évidemment, le public est tout à fait preneur et heureux de participer à ces opérations.
Très bien. Eh bien, le 15 décembre, fête de la soupe à l'abordage à Évreux.
À partir de 19h30.
Exactement. Nous repartons en pause musicale avec l'Amicale Dijonnaise pour un monde plus beau. Le titre choisi, c'est Légèrement Has-Been. Alors, c'est un groupe rouennais qui tourne très bien d'ailleurs, présélectionné pour le Printemps de Bourges 2012 dans ce qu'ils appellent les catégories découvertes. Donc, ils sont présélectionnés pour le moment pour le Printemps de Bourges 2012.
C'est toujours très intéressant de faire découvrir la scène locale émergente et qui arrive à vivre.
Et comme vous devez sûrement vous en douter avec un nom pareil, c'est un univers aussi très particulier. L'Amicale Dijonnaise pour un monde plus beau.
Je suis pas l'imposteur, vous êtes l'imposteur. Je suis pas l'imposteur, vous êtes l'imposteur.
Jackson, ça suffit, d'accord ?
Singulièrement,
Has-Been.
inlassablement.
Aspire.
Dorénavant.
Aspire.
Sexuellement, définitivement, probablement, évidemment.
Amateur de musique, Sébastien.
L'amicale dijonnaise pour un monde plus beau. Est-ce qu'il ne sera pas plus beau, ce monde, avec l'amicale dijonnaise,
bah,
hein ?
En tout cas, je trouve qu'ils y contribuent, un petit peu.
Exactement. Nous allons retrouver maintenant notre invité, que nous avons présenté tardivement tout à l'heure, Bruno Botterf. Bonjour.
Bonjour. Mais il vaut mieux saluer deux fois quand on ne l'a pas fait la première fois.
Quand on l'a pas fait la première fois, il faut maintenant qu'on le fasse proprement. Donc, vous êtes directeur de l'ensemble Ludus Modalis.
Oui, un nom étrange.
Et j'allais vous le dire, c'est un nom très étrange.
Oui, c'est un nom, une expression latine qui signifie le jeu des modes. Alors, jeu des modes, un petit clin d'œil. Jeu des modes, un relativement jeune ensemble qui se joue des modes et qui crée un concept jeu des modes. Mais aussi, c'est l'idée des échelles sur lesquelles sont construites les musiques du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui sont ces échelles sonores qui partent du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou ré, mi, fa, sol, la, si, et qui s'appellent des modes. Donc, ces échelles s'appellent des modes. Donc, jeu des modes, Ludus Modalis. Voilà. Donc c'est assez technique et en même temps c'est ludique. Voilà.
Oui, un petit jeu de mots.
Alors, c'est un ensemble à modulation variable un peu, parce que je voyais que vous pouvez avoir des programmes à 4 chanteurs ou à 12 chanteurs. D'abord, vous êtes à l'origine de ce groupe ?
Oui, je suis complètement à l'origine. Je pratique la musique depuis assez longtemps maintenant et je souffrais un peu de n'être que l'employé de certains ensembles ou chefs. Mmh. Et j'ai expérimenté un certain nombre de choses en tant qu'enseignant. J'ai été prof à Tours, au conservatoire notamment, et puis j'ai pu expérimenter un travail sur la polyphonie vocale dans ce contexte-là. Et à l'issue de ça, j'ai souhaité monter mon propre magasin avec mes chanteurs. Donc, et on a commencé par des concerts de musique sacrée. On était de 6 à 10 chanteurs, selon les programmes. Et toujours en souhaitant aller le plus loin possible dans les couleurs vocales, la pureté des intervalles et de ces échelles qu'on évoquait tout à l'heure, Ludus Modalis, les modes, donc ces échelles sonores. Et donc, pendant quelques années, nous n'avons fait que du concert a cappella, donc sans instrument d'accompagnement. Et puis, la niche dans laquelle nous sommes, c'est quand même la Renaissance. Et la Renaissance, c'est une période historique qui est connue, mais relativement méconnu des mélomanes et du public. Il y a d'autres musiques qui attirent plus. La période classique qu'on connaît, Mozart et compagnie, mais surtout la période baroque, qui est un peu plus à la mode maintenant. Ce qui fait que, pour des raisons, je dirais, économiques, stratégiques, j'ai dû dévier un tout petit peu de notre champ d'action habituel pour aller vers des répertoires qui sont très intéressants, hein, mais qui concernent plus le 17e, la période baroque, et du coup font appel à des instruments, des choses qui ne sont pas le propre de la musique de la Renaissance.
Pourtant, c'est une époque charnière, la Renaissance, enfin, entre le basculement entre la Renaissance et le baroque, il y a énormément d'innovations.
Mais on est exactement là-dessus, sur ce propos-là. C'est-à-dire que l'ensemble, je l'ai construit au départ pour faire la musique de la première Renaissance, donc la musique de la fin du 15e ou tout début du 16e siècle, qui intéresse beaucoup les spécialistes, mais qui n'intéresse pas énormément le public. Et puis, le choix de mes chanteurs et le travail approfondi qu'on faisait nous a conduit vers la fin du 16e siècle et vers cette période transitoire qui va faire passer la polyphonie au monde de l'opéra, quasiment. Et c'est tout à fait intéressant. On passe de cette musique où les voix sont empilées l'une au-dessus de l'autre et où il y a des entrelacs musicaux vers une musique qui va être une musique d'accompagnement. Ou en tout cas, la voix a plus d'importance et le texte a aussi plus d'importance.
Tout à fait. Et puis, où finalement on se rencontre, au départ, cette musique, ce chant étant essentiellement sacré ou religieux.
Les deux ont toujours existé. Hein.
Voilà. Et aussi profane, bien sûr, mais avec, je pense, à l'époque, une autre notoriété ou un autre mode de diffusion, ou pas la même façon de l'entendre, ou dans des lieux différents,
forcément. Oui, bien
forcément.
Sûr. Mais c'est-à-dire que les sources écrites, l'édition musicale est apparue à la fin du 15e siècle. Et donc, les musiques qui ont été imprimées et écrites sont des musiques en général sérieuses. C'est-à-dire la musique sacrée, évidemment, les chansons, ce qu'on appelait les chansons, ce sont des pièces polyphoniques, ou les madrigaux plus tard, et les musiques populaires et les musiques que les gens chantaient, en général, ne sont pas conservées.
Elles étaient transmises plutôt par la tradition orale.
Donc il y a quelques personnes qui se sont intéressées à ça. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelait Jean Char d'Avoine, qui, à la moitié du XVIe siècle, a compilé une centaine de pièces, qui sont des chansons populaires, et qui ont quelquefois été transformés en chansons à plusieurs voix, mais qui sont là, en général, dans leur version monodique, et où il y a donc à la fois les chansons, les textes et les musiques. Quoi. Donc c'est tout à fait intéressant. On l'utilise pour certains concerts, et notamment pour les concerts qu'on donnera bientôt.
Donc une source précieuse, finalement, d'informations.
Elle est très précieuse.
Et alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, ces chants de la Renaissance, du XVIe, on les donne où, plutôt, comme c'est un travail essentiellement a cappella, j'imagine, dans des lieux plutôt d'église,
oui, il faut des lieux
qui résonnent.
Tout à fait.
L'essentiel de... Je pense que vous avez été peut-être dans des lieux improbables aussi.
Lieux improbables, lieux avec des acoustiques. Moi, j'ai le souvenir de concerts dans des caves qui sont des champignonnières à Meudon, en région parisienne, par exemple. Lieux improbables, qui n'ont pas été conçus pour ça, mais qui ont une acoustique proche des églises romanes. Un enregistrement qui a été fait de nuit dans un lieu comme ça. Et puis, évidemment, on fréquente un peu les églises sans avoir forcément d'acquaintance ou de rapport, mais en tout cas des habitudes, parce que ce sont des lieux qui facilitent la voie naturelle. Voilà.
En parlant de voie naturelle, j'ai fait un petit tour sur votre site internet et j'étais particulièrement étonné de voir notamment une vidéo où vous chantiez assis à table.
Alors,
par rapport à la voix, j'avais moi plutôt une représentation de chanter debout pour avoir...
Alors, la voix telle qu'on se la représente, c'est toujours une voix qui est issue du 19e siècle ou du 20e siècle. En tout cas, du 19e siècle. L'image qu'on a de la musique classique, c'est celle du 19e siècle. Il se trouve que la chanson et la musique polyphonique au 16e siècle étaient faites, évidemment, debout quand on était à l'église, puisqu'il y avait un lutrin commun pour les chantres et qu'ils étaient obligés de pratiquer... un rapport comme ça, donc sérieux, et on est debout quand on célèbre Dieu. Mais à la maison, c'était complètement différent. La musique polyphonique à la maison, c'était le répertoire de la chanson, et je pense souvent à cette image de la partie de cartes. C'est-à-dire que chaque chanteur possède sa propre partition avec uniquement sa ligne. Donc le superius est chanté par quelqu'un, le contraténor, le ténor et la basse, qui sont les parties en général de la chanson à quatre voix, sont donc réparties, et c'est une partie de belote musicale qui n'est absolument pas pensée pour un auditoire, qui est pensé uniquement pour les personnes qui la pratiquent, qui pratiquent cette polyphonie, et puis les quelques personnes qui sont éventuellement là. Donc, je pense que ce serait une idée une mauvaise chose que de vouloir absolument le faire comme un concert de Mendelssohn ou de choses comme ça, où on est en quatuor vocal face à un public, voire avec un chef devant qui bat la mesure. Donc c'est contre ces idées-là que j'ai aussi continué à travailler avec Ludus Modalis. Parce qu'une des particularités de l'ensemble, c'est qu'il n'y a en général pas de rapport frontal. Je dirige l'ensemble, même si on est 20 chanteurs, de l'intérieur, dans le demi-cercle, en battant ce qu'on appelle un tactus, une battue donc de chef, mais le plus discrètement possible, efficace aussi, et quelquefois plus violent quand il le faut, mais globalement pour éviter ce rapport qui est pour moi issu du 19e siècle.
Oui, c'est donc être au plus proche aussi, d'une certaine réalité de l'époque.
Alors, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que ça amène aussi les chanteurs à être beaucoup plus individuels et à être beaucoup plus acteurs. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir quelqu'un devant qui impose oblige chacun à être autonome et à servir le même propos que les autres. Et ça, c'est pour moi, on parlait d'humanisme, on parlait d'humanité ou je sais pas, de choses comme ça tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est qu'il n'y a pas plus beau creuset, quoi.
On chante ensemble.
Exactement, et pour ensemble. La même chose, et on dit des choses. Donc les choses, les notions, c'est bien sûr la justesse, mais prononciation du texte, la même prononciation. On travaille par exemple beaucoup sur une prononciation restituée des langues. C'est-à-dire pour le 17e ou pour le 16e, pour la langue italienne, pour la langue allemande, et évidemment pour le français. Et il y avait des règles qui étaient extrêmement précises, qui sont compilées, qu'on peut retrouver. Il y a des sources, des livres de linguistique, il y a des traités de prononciation, il y a des livrets de voyage qui existent, où on a une sorte de phonétique. Et c'est extrêmement intéressant. Et on retrouve du coup des couleurs qui sont absolument éloignées du français moderne et qui, malgré tout, parlent au public. C'est-à-dire que le public, une fois passé cette espèce d'étrangeté, lorsqu'un ami canadien vient à la maison, c'est le même problème, eh bien, on se plonge là-dedans et on écoute avec beaucoup plus d'attention que si on était dans un terrain un petit peu comme ça, banalisé.
Oui. Je rebondis aussi parce que je crois que l'ensemble Ludus Modalis intervient énormément aussi auprès de différents publics, dans les écoles, justement, sur, on va dire, ces techniques. Mais enfin non, c'est cette façon de déclamer ou de dire un texte. Et,
je pense que le texte est toujours primaire. Il faut toujours que le texte soit avant la musique, en tout cas, pour tout ce qui est polyphonique et chanson. Donc il y a un travail sur la déclamation, sur la prononciation. Et les enfants sont extrêmement sensibles à ce genre de choses. Je viens d'effectuer deux journées de travail avec des enfants d'Évreux qui ne sont pas dans des zones privilégiées et des enfants qui sont d'origine souvent étrangère. Et je suis stupéfait, vraiment, de constater ce genre de choses. Et des enfants d'origine turque, on en parlait tout à l'heure, je crois, peut-être hors micro, mais que les enfants qui sont capables, par ce biais-là justement, de découvrir des particularités de la langue, de la prononciation, de l'écriture, de l'orthographe, et eux ne sont pas du tout... au contraire, ils sont extrêmement ouverts, il n'y a aucune barrière, c'est-à-dire qu'ils sont capables, tout en étant d'origine turque ou algérienne, ou peu importe, d'y aller les yeux et les oreilles ouvertes. Beaucoup plus qu'un adulte ou qu'un jeune français que j'ai fait travailler la semaine dernière, par exemple. J'ai travaillé dans un lycée agricole dans le nord du 76 et c'était beaucoup plus délicat. Beaucoup plus délicat parce qu'il y a aussi cette notion de groupe qui intervient et que même si quelqu'un est intéressé ou quand il y a 18 personnes autour de soi et qui ne pensent pas pareil, il faut penser comme l'ensemble. Chez les enfants, il n'y a pas cette question-là. Il y a une espèce de...
Une grande liberté,
on y va, et puis c'est comme ça.
On est moins dans la norme.
Merveilleux.
Ouais.
Merveilleux.
Je vous propose qu'on écoute un premier extrait que vous nous avez choisi. Alors, deux petits mots sur l'extrait que nous allons écouter.
Alors, c'est l'extrait du premier disque de l'ensemble qui était consacré à Pascal de Lestocart, compositeur du XVIe siècle, qui a écrit de la musique profane et de la musique religieuse. Donc c'est de la musique plutôt d'obédience protestante, calviniste, et une chanson qui s'appelle « Suzanne un jour », qui est l'histoire d'une jeune fille qui est convoitée et regardée de très près par des vieillards, et qui dit plutôt me crever que de me faire avoir par ces vieux. Et bien... Suzanne un jour de Pascal de Lestocart.
Thank you.
l'ensemble Ludus Modalis avec Suzanne un jour.
De Pascal de Lestocart. Oui.
De Pascal de Lestocart.
Ah oui, le nom du compositeur est important. C'est parce qu'il y a quand même une quarantaine de compositeurs qui ont traité ce sujet-là à la Renaissance. Je tiens à le dire.
Vous faites très bien. Alors, tout à l'heure, on parlait de peut-être de façon de faire un peu particulière, mais alors, vous allez également en appartement, en concert privé, alors, en appartement.
C'est une nouveauté pour vous ?
C'est une nouveauté pour nous, mais qui colle tout à fait à ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée de la chanson qui est faite pour soi avant tout assis à table. Bah, je pense que là, on est exactement dans ce contexte-là, puisque ça, c'est Philippe de Röder, après, à l'issue d'une discussion donc, il y a à peu près un an, qui me dit « Pourquoi ne ferions-nous pas des concerts comme ça en allant ?» Parce que moi, je souhaitais aller faire des concerts dans des lieux un petit peu différents. Je pensais à des maisons de retraite, je pensais à des prisons, pourquoi pas. On avait évoqué ces questions-là. Il dit « Mais pourquoi pas chez les gens ?» Et du coup, cette idée a germé et va déboucher sur quelques dates donc, de concerts qui sont pour nous... originaux parce que on n'est pas habitué à ce rapport d'extrême proximité en fin de compte. Et là, on va inviter en fin de compte les gens chez eux. On s'approprie le lieu, on s'installe et ils vont découvrir leur maison sous un autre angle, en fin de compte. Et oui. Ça, c'est tout à fait intéressant, parce qu'il y a un partage, un échange qui se fait dans les deux sens.
Et puis le lieu reste d'accord un lieu intime, enfin privé, mais qui est transformé finalement par la présence d'un ensemble d'artistes, ou l'aménagement du salon, où on va poser, parce que vous êtes accompagné d'un clavecin,
oui,
un instrument,
sur
l'originalité du répertoire. Parce que c'est quand même, là, on est pour le coup sur un répertoire de chansons. Française 16e.
Oui, on est juste à populaire. La jointure des deux siècles qu'on évoquait tout à l'heure, c'est entre le 16e et le 17e siècle, et sur de la musique qui normalement n'est pas écrite pour trois voix, mais la plupart du temps pour quatre ou cinq voix. Et pour mener les choses à bien, j'ai souhaité donc faire appel à trois chanteurs et du coup utiliser le clavecin pour lier un peu et remplacer éventuellement les voix manquantes. Et la flûte. François Fauché, qui chante à la basse pour ce concert, est également flûtiste de très bon niveau. Moi, je suis claviériste, donc je peux jouer de l'orgue, du clavecin. Et je me suis fait fabriquer, il y a peu de temps, un clavecin qui est un clavecin original. Dans le sens où, je joue sur le mot, mais c'est un clavecin qui est cordé en boyau. Ce qui était le propre des instruments du XVIe siècle et du XVIIe siècle. La plupart des instruments à clavier, donc des clavecins, qu'on appelle clavecins maintenant, de cette période-là, étaient en Allemagne appelés Lautenwerk, ou Archibudelli, ou des choses comme ça. C'était des instruments qui utilisaient la corde de mouton, hein, je pense de mouton originellement. Et... qui ont un son beaucoup plus doux et beaucoup moins agressif, je dirais. J'adore le clavecin, mais le son du clavecin a un côté métallique. On ne peut pas lui enlever. Ce clavecin a une rondeur qui est plus proche d'une guitare basse, d'un luth, d'un théorbe, si vous voulez, avec quelque chose d'extrêmement polyphonique. C'est un instrument qui est, en tout cas, l'accompagnateur rêvé des chanteurs. Et donc, dans ce programme, il y aura une alternance de pièces populaires, des pièces simples, des pièces de Clément Jeannequin, donc du début du XVIe siècle, et des textes qui seront déclamés, qui seront joués, des petits extraits de ce recueil de Charles d'Avoine qu'on évoquait tout à l'heure, de ces scénettes. Il y aura des textes qui sont d'ailleurs très, très légers. Hein, très légers.
Oui, parce que j'imagine autour de la table,
oui, voilà, donc...
tous les sujets sont évoqués ou écrits. C'était un endroit où, le compositeur se permettait...
pouvait se permettre ce qu'il ne pouvait pas se permettre à l'église.
À l'église,
c'est évident.
C'est
la plupart des compositeurs étaient au service du prince ou de l'évêque. Et donc gagner sa vie dans ce contexte-là, et à la maison, évidemment, on se faisait un peu plaisir. Je pense à Guillaume Cotelet, qui est le compositeur régional de l'étape, puisqu'il est né probablement à Ponto de Mer et qu'il a été organiste à la cathédrale d'Évreux dans les années 1570. Et qu'on a déjà célébré à moult reprises avec Ludus Modalis, et qui va faire partie du programme, et qui est un compositeur donc assez génial, qui a exercé dans tous les genres, dans la chanson, dans le motet, dans la chanson spirituelle, donc qui élève l'âme, et aussi dans des trucs qu'on n'ose pas prononcer. C'est-à-dire qu'on vient d'enregistrer un disque la semaine dernière, il y a une pièce qui s'appelle « Grosse garce tendre et noire » qui me chia dans le poing. Donc c'est une pièce qui est descriptive et qui sent bon la rosée.
Le fait d'aller jouer en appartement ou en tout cas chez les gens, y a quand même l'importance de l'acoustique dans ce que vous interprétez. C'est comment vous affrontez cette difficulté,
ça, c'est
ou
une
comment vous
l'appréhendez. C'est une difficulté habituelle, c'est-à-dire qu'on est tout le temps confronté à ça. L'improbabilité des rencontres, on ne choisit pas toujours le lieu où on doit aller. Puis il y a des lieux qui sont soi-disant très bons et puis qui sont pas bons pour la voix, par exemple, ou des lieux qui sont très mauvais pour certains types de musique et qui pour nous sont merveilleux. Donc je pense que on a fait récemment un concert dans un gymnase en Seine-Maritime, et il a fallu sonoriser le clavecin, par exemple, parce que c'était absolument impossible. On l'a fait en dernière minute, et puis ça s'est très bien passé. Donc là, on a visité les lieux, on sait où on chante, on sait qu'il n'y aura pas 200 personnes dans les salons, mais il y aura peut-être 40-45 personnes, une acoustique plutôt favorable, donc non, je pense qu'il n'y a pas, y a pas de problème. Et c'est surtout la convivialité. Il
n'y
aura pas de distance, ce sont des lieux relativement petits, ce qui fait que personne ne sera mal servi, je pense que...
Il y a une proximité, puis une vraie découverte aussi, puisque le principe de cette démarche aussi, c'est d'apporter évidemment un répertoire où on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, ou un rapport avec la musique, comme je le disais tout à l'heure au début de l'émission, hein, une autre expérience d'auditeur, hein, que d'entendre un concert chez soi, que dans une salle. Et puis pour la personne qui reçoit et qui a fait la démarche d'inviter... Puisque là, elle propose à son entourage, à ses voisins, certains jouent le jeu vraiment d'ouvrir justement ce concert à des personnes qui ne connaissent pas forcément ce répertoire ou la musique classique. Voilà, donc il y a double rencontre, on va dire, à travers ce dispositif. En tout cas, une belle idée.
Oui, en tout cas.
Vous nous aviez préparé, Bruno, un deuxième extrait à écouter.
Oui, c'est un extrait qui est tiré d'un disque qui vient de sortir de l'ensemble, qui est un disque consacré essentiellement à Roland de la Suisse. Roland de la Suisse, qui était un compositeur qu'on appelle franco-flamand, donc de la fin du 16e, début du 17e, et qui a écrit énormément de choses, lui aussi des choses très variées, dont des pièces d'inspiration populaire. Cette pièce, O Occhi Mansamia, tes beaux yeux, donc c'est une description du corps féminin. En italien, et qui est une chanson populaire qui est là à cette occasion réécrite par la Suisse à trois voix, donc qui est une pièce qui correspond assez bien, en fin de compte, bien qu'étant en langue italienne, à ce que nous allons faire la semaine prochaine.
C'è una luna trallucente, tieni la mente, gioia mia bella, guarda un po' qua a me fame contento. Tieni la mente, gioia mia bella, guarda un po' qua a me fame contento. Oh, bocca come zucchero, oh, bocca come zucchero impanato. Oh, bocca come zucchero, oh, bocca come zucchero impanato. Oh, canna che specchiare, oh, canna che specchiare, poi la gente. Tieni la mente, gioia, ma bella, guarda un po' qua a me fame contento. Tieni la mente, gioia, ma bella, guarda un po' qua a me fame contento. Occhietto che conforti, occhietto che conforti gli ammalati, occhietto che conforti, occhietto che conforti gli ammalati, pieno di fiore dolci, pieno di fiore dolci a cui sorgenti, tieni la mente gioia mia bella, guarda un po' qua a me fammi contento. Tieni la mente, gioia mia bella, guarda un po' qua a me fame contento. Per tante quante grazie, per tante quante grazie che tu hai, per tante quante grazie, per tante quante grazie che tu hai, ricordati di me, ricordati di me, perché tu sai che sono grande, gioia ma bella, guardami un po' qua a me fame contento. Tieni ma mente, gioia ma bella, guardami un po' qua a me fame contento.
Merci Bruno Boterf, directeur de l'ensemble Ludus Modalis, pour avoir partagé avec nous ces extraits musicaux et puis cet échange au micro qui était fort intéressant.
Oui, puis de nous plonger dans cette musique aussi bien profane de chansons qui est peu connue finalement du,
ouais,
du
public. C'est une musique de convivialité, hein, c'est une musique...
On reste dans la thématique, ouais. Vraiment.
Et nous retournons une page, comme vous venez de l'entendre. Nous disions en début d'émission que nous lancions un appel à figurants, Nathalie.
Oui, appel à figurants. Alors, voilà, la compagnie La Piccola Familia, qui est une compagnie rouennaise, Thomas Joly, donc crée au mois de février, est en train de créer une épopée théâtrale, puisqu'il monte le fameux Henri VI de Shakespeare, et Henri VI de Shakespeare, c'est 12 heures de théâtre. Ça n'a jamais été monté au 19e, 20e ou 21e siècle. Parce que c'est des grosses productions, parce que c'est une distribution énorme. Lui, il l'a réduite à 18 interprètes, mais dans l'œuvre de Shakespeare, c'est 150 personnages. Voilà, donc vous imaginez le travail de condensation et d'organisation qu'il faut. Le Henri VI sera donné le 14 et 16 février, donc en deux parties, au Théâtre du Grand Forum à Louviers. Et sur la première partie, voilà, la compagnie recherche des figurants, plutôt des hommes, pour une scène de bataille, puisque Henri VI, c'est quand même globalement dans la guerre de Cent Ans, le Moyen-Âge, hein, Jeanne d'Arc combattant les Anglais. Enfin là, c'est plutôt du point de vue de Shakespeare, c'est plutôt les Anglais combattant les Français. Et donc à un moment, comme c'est un spectacle d'envergure, hein, 18 comédiens sur un plateau en permanence, plateau ouvert, pour cette scène justement de bataille entre les Anglais et Jeanne d'Arc, cherchaient vraiment l'idée de la foule et de bataille et font appel vraiment à des amateurs pour cette séquence chorégraphiée qui dure 3 minutes, mais là où il y aura vraiment plus de 50 personnes sur le plateau. Voilà, donc, pour tout à chacun qui a envie de participer à cette aventure, d'avoir cette expérience de plateau, la compagnie cherche donc plutôt des hommes en forme. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de combat virulent, c'est plutôt des courses et des courses rapides, voilà. Et il y aura un stage de préparation le week-end d'avant, donc le samedi 11 et dimanche 12 février. Voilà.
Alors c'est un appel, ça peut être très intéressant de rentrer dans la vie du théâtre, de la compagnie, de toucher du doigt comment fonctionne l'envers du décor.
L'envers du décor, d'une création, d'expérimenter le plateau aussi. Et puis là, je pense que les amateurs, enfin les figurants sont vraiment plongés dans le bain, puisque en direct sur une scène, être à 50, je pense qu'on capte très vite là où il faut être et là où il ne faut pas être pour pouvoir faire en sorte que la scène se passe bien. Voilà. Donc, pour toute personne intéressée, vous appelez... c'est la scène nationale qui gère les inscriptions. Donc, le standard au 02 32 78 85 20. Mais vous retrouverez tout ça sur le site de l'émission.
Exactement. L'heure de retrouver l'agenda.
Alors, agenda du mois de décembre. Pas mal de choses.
Eh bien, pas mal de choses. J'avais là une suite logique, un petit peu comme au Scrabble. J'avais un parcours compte en triple avec, donc comme nous l'avions dit durant l'émission, le 15 décembre, la soupe partie, la deuxième fête de la soupe, la deuxième édition de la fête de la soupe à l'abordage à Évreux. Le lendemain, le vendredi 16 décembre, à partir de 20h, la Guerre aux Musiques organise le concert X-Mas Party. Alors c'est le concert de fin d'année. Voilà, Christmas. tu le dis beaucoup mieux que moi d'ailleurs, Nathalie, au bénéfice de l'association Jeunes Écoliers du Monde.
Oui, je rebondis, Jeunes Écoliers du Monde, une association très active à Louviers qui parraine des enfants de Madagascar, des petits malgaches, qui a fait en sorte de créer une cantine dans une école, ce qui permet aux enfants d'être scolarisés, d'être fidèles, réguliers à la scolarisation, puisque les familles savent pertinemment qu'ils pourront manger au moins un repas par jour grâce à cette cantine.
Et donc, pour ce concert, une belle affiche, Off the Beaten Track, Ich bin Doctor, les Moinix, The Mustard Tigers, Yidaki Jug Band et Eisomo.
Ouais, belle affiche. Hein.
Belle
très
affiche,
belle affiche. Voilà. Hein. Et je crois que l'entrée est à 5 euros.
L'entrée est à 5
c'est,
euros.
C'est beau groupe, c'est bon groupe pour 5 euros. Et en plus, pour une association qui vraiment fait un travail formidable.
Vendredi 16 décembre à 20h. Le lendemain, le samedi 17 décembre à partir de 20h30, c'est au Silo à Verneuil-sur-Avre. Le Père Noël est un punk. Également.
Je demande à voir.
Également, l'affiche le prouve.
Hein. Oui.
Également, un concert qui a pour but de récolter des jouets pour les enfants de familles en difficulté. Donc, l'entrée est à 5 euros, pareil, ou un jouet neuf. À l'affiche, RAVI, Taiwan Bungalow, Expulsion.
Donc, voilà, si on a envie de faire un petit don ou un petit geste de qui coûte rien finalement un jouet. Qu'est-ce que voilà, peut-être pas grand-chose. Et puis bien évidemment la semaine prochaine, hein, Mignonne allons voir, donc de l'ensemble Ludus Modalis par Bruno Boterf. Donc à partir du 6 décembre, ce concert donc est donné en appartement, enfin chez les résidents, mais sera donné aussi en concert public les mardis 6 décembre à 20h30 et jeudi 8 décembre à 20h30 à Évreux, à la chapelle de la Cave Boudin. Voilà, donc c'est important puisque vous pouvez aussi profiter et écouter ce beau répertoire. Si vous ne l'accueillez pas chez vous, bien évidemment.
Il reste Barbe Bleue également, la Barbe Bleue.
Oui, la Barbe Bleue à Louviers, donc spectacle à partager en famille, ciné-spectacle, ciné-concert, puisque c'est l'histoire de Barbe Bleue, fameux homme qui tuait, ce serial killer de l'époque qui tuait ses femmes. Hein. Et là, c'est donné par la compagnie La Cordonnerie qui a réaliser un film, et le spectacle c'est vraiment les musiciens et le bruitage de ce film muet qui se fait en direct pendant la projection. Voilà, donc jusqu'au 7 décembre, le 7 décembre ce sera donné à Louviers au Théâtre du Grand Forum. Et puis une autre petite indication, on parlait justement, qui rebondit un peu sur l'appel à la figuration, donc il y aura un atelier libre. Alors, c'est un atelier du jeu libre, qu'est-ce que c'est que ça ? Le lundi 12 décembre à 19h30 à Louviers au Théâtre du Grand Forum. C'est-à-dire c'est pour tout un chacun qui a envie d'expérimenter le plateau, voilà, de travailler avec un metteur en scène, de se rendre compte un petit peu de ce qu'est le travail d'un comédien, mais par des exercices simples. Voilà, le théâtre du Grand Forum à Louviers, à travers la scène nationale, ouvre son plateau et propose une séance de travail avec le metteur en scène Robert Cantarella. Et c'est gratuit. Voilà, on a fini pour l'agenda de janvier, avant Noël. Encore plein de choses, hein, plein de choses. Enfin, si vous en avez un petit peu assez de faire les cadeaux de Noël, aller écouter de la musique ou aller voir un spectacle.
Et pour terminer cette émission, nous vous proposons notre tour du monde musical. Le tour du monde musical aujourd'hui s'arrête au Chili. On va vous proposer donc de la musique traditionnelle. Alors, on ne parle pas de musique de marché, hein, je vois dans ton regard,
oui,
Nathalie.
Je disais, est-ce que ça va être le groupe avec la flûte de Pan et que l'on retrouve dans toutes les villes touristiques de France ?
Alors,
non.
Oui et non,
oui
parce
et
que
non.
Ça fait partie des instruments,
oui.
De toute façon.
La guitare, la flûte de Pan.
Voilà, il y a des instruments qui font partie du folklore, quoi qu'il arrive. Après, il y a folklore et folklore. Nous sommes bien d'accord. Donc aujourd'hui, nous ferons un petit tour du monde vers le Chili. Nous en profitons d'ailleurs pour faire un clin d'œil à notre ami Timothée.
Voilà. On lui souhaite un très bon voyage à Timothée.
Exactement.
Et puis on se retrouve maintenant le 6 janvier. Voilà, bonne fête et bonne année à tous. Bonne fête de fin d'année.
Exactement. Puis on vous souhaite un mois de décembre plein de sorties.
Plein de sorties.
Au mois prochain.